Alors, salutations à tout le monde. Aujourd'hui, dans le message de sabbat que je vais vous présenter, ça touche un sujet vraiment fondamental dans la vie chrétienne, un sujet de base. Et le titre de mon message, c'est « Combattre notre vanité ». Combattre notre vanité. Ça veut dire combattre l'orgueil. Et on sait que c'est une chose majeure. Dieu revient constamment là-dessus. Dieu dit, je ne réponds pas aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles, hein, à plusieurs places dans la Bible. Et lorsqu'on humilie notre âme devant Dieu, lorsqu'on a vraiment à cœur de lui obéir, de lui appartenir, de grandir dans la grâce, dans la connaissance, d'être plus proche de lui, de faire sa volonté, d'accomplir son œuvre, de développer son caractère, Dieu répond à nos prières. Et c'est encourageant, c'est tellement fantastique. Tantôt, j'ai entendu quelqu'un encore, en arrivant à l'Assemblée, qui m'a dit la joie qu'il avait de voir Dieu intervenir dans sa vie, donner des réponses à des prières. Et d'avoir le plaisir de remercier Dieu de ça, et même de remercier Dieu des choses que Dieu a faites pour lui qu'il n'a pas vues. Et c'est une bonne attitude à avoir. Et Dieu apprécie, parce que ça nous met vraiment en contact avec lui dans l'attitude de vouloir devenir son enfant à part entière. Alors, combattre notre vanité, et on en a tous, on part de là, on part d'une nature de vanité. Notre nature charnelle, c'est la vanité. Notre nature qui désire faire les choses à sa façon, pour elle-même, de façon égoïste, avoir raison, se justifier, ça c'est notre nature humaine au point de départ, à tous. Et ça reste, et ça a tendance à revenir. C'est le combat qu'on doit faire, et sur lequel on doit s'examiner quand les fêtes du printemps arrivent, mais aussi tout au long de l'année, pour garder cette démarche dans le sens de Dieu. La vanité, c'est aussi la suffisance de se penser correct, être suffisant, ne pas avoir besoin. J'ai pas besoin vraiment de Dieu, j'ai pas besoin vraiment des autres. Alors que, oh que oui, j'ai besoin de Dieu d'abord, et j'ai besoin des autres aussi. On a besoin des autres. La vanité, c'est aussi la prétention. Ça veut dire prétendre. Et quand on se pense être quelque chose qu'on n'est pas, on est prétentieux. On se prétend être quelqu'un que nous ne sommes pas. Et quand Dieu nous appelle, il casse la petite coquille pour nous montrer qu'on pensait être quelque chose d'important, qu'on pensait être grand, qu'on pensait avoir raison sur bien des choses. Là, il casse la petite coquille pour nous montrer qu'on avait entièrement tort, qu'on ne savait rien, qu'on ne comprenait rien, des choses spirituelles, des choses véritables, des choses durables, et que lui a à nous enseigner. Et quand on devient enseignable, qu'on accepte ça, puis même qu'on lui demande de nous en montrer davantage, il le fait avec plaisir. Et ô combien c'est encourageant, c'est stimulant pour nous, parce qu'il nous aide à avancer à ce moment-là. Parce qu'au point de départ, pour nous, pour vous et pour moi, pour tous les êtres humains, notre vie, elle est guidée, et elle est affectée par la vanité. Qu'on le réalise ou non au point de départ, c'est le cas. Et ça a tendance à revenir. Et c'est un combat qu'on va mener tant qu'on sera encore dans la chair humaine. Il faudra faire attention pour ne pas que ça revienne. En d'autres termes, je pourrais dire ceci, c'est pas flatteur, mais on est obligé à un moment donné de voir la réalité en face. La vanité, vous la voyez, c'est moi. Et la vanité, je la vois, parce que c'est vous. La vanité, c'est nous en tant qu'êtres humains au point de départ. C'est ça. Alors, c'est de là qu'on part. Je vous dis pas ça pour qu'on se décourage, mais pour qu'on se voit tel que c'est et qu'on continue la démarche qu'on a entreprise avec Dieu. La vanité, si vous regardez les différentes définitions, on peut la résumer de cette façon. C'est une réalité éphémère. Vanité, c'est quelque chose qui ne dure pas. D'ailleurs, on sait que les êtres humains ne durent pas. Hein? C'est des êtres humains faits de poussière. Et Dieu dit, vous allez retourner à la poussière. Ça ne dure pas, c'est juste le temps d'un instant, d'une courte vie, qui est très, très restreinte en termes de temps. La vanité, c'est une réalité éphémère. C'est vapeur. Et dans la Bible, Dieu dit, vous êtes comme une vapeur hein, qui passe pour un temps. Ouh, ça s'en va. Comme une brume le matin qui sort des marais. Et aussitôt que le soleil paraît, ça dit, elle n'est plus là. Elle disparaît. Ça, c'est la puissance d'un être humain, ce qu'il est réellement, parce qu'il n'a pas de force en lui-même, sinon pour exister une petite période de temps qui lui est donnée comme une fleur, comme une plante qui sèche à un moment donné au soleil, puis qu'il n'y a plus d'existence. Et si Dieu ne nous appelait pas pour nous donner la vie éternelle, il n'y aurait pas autre chose après. Mais Dieu nous appelle. Dieu appelle un petit troupeau maintenant et Dieu va appeler le reste de l'humanité quand le Christ va être revenu, parce que Dieu est un Dieu juste. Mais au point de départ, nous sommes vanité, nous sommes cette vapeur, nous sommes ce rien, nous sommes cet être passager. Et quand on est appelé à devenir comme le Christ, à vivre en tant que chrétien, c'est que là, on doit quitter graduellement le passager, ce qui est passager, ce qui est éphémère, pour nous diriger vers ce qui est éternel. C'est ça la démarche des appelés. Quitter ce qui est éphémère et passager pour aller vers ce qui est éternel. Quitter graduellement l'impuissance que nous avons en tant qu'être humain, parce que la petite puissance qu'on a sur le plan humain, que ce soit la force physique ou la force intellectuelle, c'est rien à côté de Dieu et ça ne dure pas non plus. Et même ça, si c'est mal utilisé, c'est souvent utilisé pour faire le mal plutôt que pour faire le bien. Alors, on quitte cette impuissance-là pour revêtir la force de Dieu, la force du Christ. Allez à Ecclésiaste chapitre 1, s'il vous plaît. Ecclésiaste chapitre 1. Vous rappelez probablement par cœur ce passage-là. Ecclésiaste chapitre 1. Et le verset 2. Il commence son livre, l'Ecclésiaste, Salomon, en disant ceci. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Il met tout ça ensemble pour montrer que tout ce qui concerne les êtres humains, la vie humaine sans Dieu, c'est éphémère, c'est vide, c'est impuissant, et ça ne va nulle part si on n'a pas l'aide de Dieu. Et ça, c'est en toute chose qu'on a besoin de l'aide de Dieu. La vanité, elle appartient, j'ajoute ceci, elle appartient au monde de l'apparence. Pensez-y un peu. La vanité humaine, elle appartient au monde de l'apparence et non pas de la réalité profonde. La vanité s'intéresse à ce qui paraît bien, à ce qui paraît, ou au dehors des choses. Et ça, c'est trompeur. C'est pour ça que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est trompeur. Il s'intéresse à ce qui paraît à l'extérieur. Il porte des jugements ou tire des conclusions sur ce qu'il voit extérieurement. Et c'est rarement bien fondé. Qui peut connaître, par exemple, les motifs de quelqu'un de faire quelque chose? Qui peut connaître vraiment l'intention de quelqu'un qui s'exprime peut-être pas de bonne façon, mais qui veut dire quelque chose de bien? Si on se fie seulement à l'extérieur, des fois, on peut juger mal la personne, alors qu'on ne voit pas son intérieur, ses motifs réels, ses trompeurs. La vanité appartient au monde de l'apparence, de ce qui est trompeur, de ce qui est mensonger, de ce qui est sans fondement. Sans fondement. 1 Corinthiens 2, verset 5. Je vais vous le donner rapidement en passant. 1 Corinthiens 2 et le verset 5 nous dit ceci. C'est Paul qui parle, il veut que notre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, qui est vanité, qui ne mène nulle part, qui est éphémère, qui n'a pas de fondement. Il dit, je veux que votre foi soit fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur quoi? Sur la puissance de Dieu. Et le seul espoir des êtres humains, c'est un, la miséricorde de Dieu, et deux, la puissance de Dieu pour nous amener à un autre niveau d'existence. Alors, en toute chose, malheureusement, en tant qu'être humain, au point de départ, on est guidé par la vanité, même dans nos rapports avec les autres. Écoutez, on est porté facilement, vous savez, hein, à critiquer. Oh, que ça, on l'a facilement, la critique. Mais quand on critique, si vous regardez ce qui se passe en dedans de la personne qui est dans les souliers de celui ou de celle qui parle, il y a des motifs qui ne sont pas corrects. Il y a des motifs qui sont des motifs de vanité, justement, de nature humaine. Quand on critique les autres ou qu'on rabaisse les autres, on se compare. Si vous remarquez, je me rappelle pas d'avoir vu ou d'avoir moi-même fait ça en voulant m'amoindrir ou en voulant me faire sentir plus petit ou en voulant me faire sentir moins intelligent que l'autre. C'était le contraire, hein? Quand on a critiqué ou quand on critique, ça nous fait du bien dans le sens que ça nous fait un mauvais bien de nous faire sentir comme un petit peu mieux que l'autre. Hein? On s'en rend pas compte. Mais oh, que lui, quand il fait telle chose, il l'a pas, puis il est pas correct, puis là, en faisant ça, déjà, je suis sur un petit piédestal. Parce que moi qui ai compris que lui, il fait pas correct, donc moi, je suis correct, j'ai compris, je l'ai vu. Alors que je connais même pas son cœur, je connais vraiment pas les mêmes circonstances. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui a été fait, c'est une autre chose. Mais voyez-vous, moi, je n'ai pas à critiquer et à condamner l'autre personne dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous dis, au point de départ, tous nos rapports, même avec les autres, sont teintés par ça. Au baptême, on reçoit le Saint-Esprit, et c'est formidable. Parce que là, Dieu change davantage nos pensées et nous fixe de plus en plus sur ce qui est spirituel. Avant d'être appelé, on n'était pas tourné vers les choses spirituelles. La Bible dit très clairement dans 1 Corinthiens 11, je pense, que l'esprit de l'homme, sans l'esprit de Dieu, connaît bien les choses de l'homme, les choses physiques, les choses matérielles, les choses intellectuelles, mais il ne connaît pas les choses spirituelles de Dieu. Niet, impossible. Il ne peut pas les connaître. Il ne peut pas les comprendre tant que ça ne lui est pas donné. Mais quand Dieu appelle quelqu'un et lui donne un peu de son esprit pour que cette personne le comprenne, là, la personne commence à comprendre les choses dans la dimension spirituelle, à l'autre niveau. Et ça, c'est formidable. Là, on découvre qu'il y a tout un autre monde, beaucoup supérieur au monde de la matière, au monde physique. Et tant qu'on est dans la chair humaine, la vanité est là et on est attiré par les choses physiques, à les choses matérielles. Mais quand Dieu nous donne son esprit, et plus qu'il nous donne son esprit, avez-vous remarqué? Et on doit faire un effort pour ça, par exemple. On doit de plus en plus garder nos pensées dans les choses de Dieu. C'est pour ça qu'on doit chaque jour étudier sa parole et chaque jour prier Dieu. Lui consacrer du temps pour lui parler, le remercier, l'adorer. Parce qu'à ce moment-là, ce faisant, ça nous garde dans les pensées de Dieu, ça nous garde proche de lui. Et on développe confiance en lui. Et par son Saint-Esprit, la vanité s'en va. Ça remplace la vanité. C'est comme M. Armstrong disait souvent, si vous voulez enlever l'air dans une bouteille, vous mettez de l'eau. Vous mettez d'autres choses, l'air s'en va. Alors, c'est la même chose. Si vous mettez les pensées de Dieu, nos pensées humaines, elles, vont s'en aller. Plus j'emplis mon esprit des pensées de Dieu, plus les autres pensées s'en vont parce qu'elles n'ont plus de place à exister. Et ça, ça fait partie de votre combat et de mon combat. Chaque jour. Chaque jour. On est à l'entraînement pour nous préparer pour le monde à venir. Allez dans 1 Samuel 16. On va regarder un événement ici qui nous aide par rapport au thème dont je vous parle aujourd'hui. 1 Samuel 16. C'est lorsque David a été oint pour être roi sur Israël. 1 Samuel 16, verset 6 et le verset 7. Vous vous rappelez que Samuel avait reçu l'ordre de Dieu de se rendre dans une telle famille. Puis il dit là, tu vas oindre le futur roi sur Israël. Et vous vous rappelez qu'il y avait un homme dans le pays qui avait plusieurs fils, Isaïe. Et il a fait passer ses fils. Et quand le prophète de Dieu a vu un des fils, il a dit, c'est lui le roi sur Israël, c'est certain. Gros et grand bonhomme, paraissait bien, probablement belle allure, peut-être s'exprimait bien, un beau vocabulaire, tout ça, je ne sais pas. C'est pas marqué, mais j'en ajoute. Mais autrement dit, c'est quelqu'un qui paraissait bien. On parle du monde de l'apparence. Le prophète s'est fait prendre. Il dit, c'est lui que Dieu veut que je joigne comme roi d'Israël. Hein? Dieu a dit, non, c'est pas lui. Pas lui. Il a fait passer tous les garçons d'Ésaïe, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, puis que là, le prophète dise à Ésaïe, as-tu d'autres fils? Il a dit, oui, j'en ai un, mais c'est le petit dernier, puis il garde les animaux dans le champ. Donc, ça veut dire, là, si on interprète ce que ça veut dire, c'est que lui, il est sans importance. Il n'a pas tellement de valeur. Vous, c'est un berger. Puis, il a pas la qualité de mes autres garçons que je vous ai présentés. OK? Alors pourtant, c'est sur celui-là que Dieu avait les yeux. Verset 6 et verset 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, le plus grand, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce que je vous disais tantôt. Au point de départ, on est tous comme ça. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Et c'est là qu'il veut que ça change, parce qu'il sait que c'est là que les grands changements dans notre vie commencent. C'est dans le cœur. Et après, les actions vont suivre. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on ne fasse pas de favoritisme. J'ajoute ça à cette chose-là. Ne pas faire de favoritisme envers qui que ce soit. D'être juste envers tout le monde. Parce que si vous remarquez, si vous y pensez un peu, faire du favoritisme, c'est une vanité. C'est de prétendre quelque chose, c'est de chercher quelque chose égoïstement. D'habitude, c'est, par exemple, entre le fait d'accorder une faveur à un tel et à un tel, de l'accorder au deuxième parce que il est plus riche, il va peut-être avoir un retour pour moi, ou parce que la personne pourra me rendre service autrement, au lieu que d'accorder la faveur ou l'aide à la personne qui a le plus besoin. Voyez-vous, le favoritisme, c'est aussi une vanité. C'est qu'on regarde dans le fond pour soi-même. En bout de ligne, au lieu d'avoir des motifs qui sont purs. Voyez-vous la différence? C'est vraiment important. Et pour Dieu, ça, c'est important. C'est comme l'apôtre Jacques écrit, vous pourrez aller voir dans Jacques 2, versets 1 à 4 et 5 à 7. Il dit, « S'il rentre dans votre assemblée quelqu'un qui est richement vêtu, puis que vous lui dites à cet homme-là, « Assieds-toi en avant de l'Assemblée, tiens, il y a un beau siège réservé pour vous, monsieur, ici. » Puis qu'il rentre après ça quelqu'un qui est... vêtu pauvrement, qui a de la difficulté peut-être à s'exprimer. Et là, vous dites, bien, s'il y a une place en arrière, vous vous asseoirez là. S'il n'y a pas de place, bien, vous reviendrez la semaine prochaine. Voyez-vous, là, il dit, vous faites une différence. Et ça, c'est une faute devant Dieu. C'est une sorte de favoritisme. Parce que vous regardez ce qui plaît à vos yeux, ce que vous voyez être une valeur, alors que pour Dieu, ça n'a pas de valeur. C'est pas ce qu'on porte, c'est pas l'argent qu'on a. Ni même la santé qu'on a, ni même quoi que ce soit. Dieu n'est pas impressionné par personne. Dieu n'est pas impressionné par personne. Il est impressionné et il veut être impressionné par ce qu'on fait avec ce qu'il nous donne. De nous voir changer pour devenir comme son fils. Ça, Dieu veut le voir faire. Et on voit dans Acte 13, versets 22 à 23, pas besoin de vous y reporter, mais Acte 13, 22 à 23, Dieu a choisi David parce que c'était un homme selon son cœur, et il dit, parce que je sais que c'est un homme qui va faire toute ma volonté. Alors, il savait que dans David, il y aurait cette intention-là de le faire. Et quand vous allez voir ce que David a fait, vous pourrez aller lire 1 Samuel. Bon, on va y aller, 1 Samuel 17. On est dans 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, juste un peu après. Quand le petit David s'est rendu, à la demande de son père, trouver ses frères sur la ligne de front, parce que l'armée d'Israël affrontait les Philistins, dont Goliath. Et le petit David, pour obéir à son père, est allé porter de la nourriture à ses frères qui étaient soldats. Quand il a vu Goliath, comme il dit lui-même, insulter l'armée de l'Éternel, il dit, « Pourquoi vous laissez faire ça? » Et là, il était prêt à y aller, ce petit bonhomme-là. OK? Mais pourquoi il était prêt à y aller? Pas seulement parce que c'était un coup d'impulsivité, parce que David avait l'expérience de marcher avec Dieu. Il savait que Dieu est un Dieu qui répond. Et dans certaines circonstances, il pouvait compter absolument. Quand je dis certaines circonstances, c'est des circonstances selon la volonté de Dieu. Il pouvait savoir que Dieu allait répondre quand il allait lui demander quelque chose. Parce qu'il l'avait vécu quand il était à justement avec ses moutons, avec ses troupeaux de moutons. Il était proche de Dieu. On le voit dans les psaumes, puis tout ça, quand il parle de la beauté du ciel, quand il parle des brebis, quand il parle de la grandeur de Dieu et tout ça. Et on le voit ici, 1 Samuel 17, on va commencer à lire au verset 34. David dit à Saül, pour convaincre le roi de le laisser aller combattre seul contre Goliath, il lui raconte ce qu'il a vécu, lui, avec Dieu, de voir la force de Dieu intervenir pour lui quand il gardait ses moutons et qu'il était mal pris. Fait qu'il dit, Dieu va faire la même chose avec ce Philistin-là. Il ne me laissera pas être détruit quand moi je vais l'affronter. Regardez, David dit à Saül pour le convaincre, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. » Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé l'ours et le lion, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. C'était pas lui qui était insulté, c'est l'armée du Dieu vivant, là. C'était le Dieu vivant que David considérait être insulté dans ce qui se passait, voyez-vous. Donc, il prenait la part de Dieu là-dedans. Et regardez le verset suivant. David dit encore, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion. » Il savait que ce n'était pas par sa force humaine qu'il l'avait fait. Il y avait une force humaine, bien sûr, mais il y avait quelque chose de plus dans cette force humaine-là qu'il faisait réaliser ces exploits-là. David dit encore, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Ce que je veux dire par là, c'est que plus on vit d'expérience avec un Dieu qui nous répond, quand on lui demande de nous montrer nos fautes, de nous aider à changer, qu'on le voit nous répondre, plus on le voit nous répondre, plus on devient confiant, plus on devient proche de lui et plus on sait qu'il va prendre soin de nous dans toutes les circonstances. Et ça, c'est fort. C'est la même force que David avait ici. Quand il dit « Dieu m'a délivré », il va me délivrer encore. Parce que je continue d'être son serviteur. Il ne faut pas que j'arrête. Parce que je continue d'être son serviteur. Donc, David était conscient que Dieu était avec lui. Et David voulait faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, « C'est un homme selon mon cœur. Il va faire toute ma volonté. » C'est pas facile de faire toute la volonté de Dieu. Je le sais, vous le savez. Hein? C'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Mais il faut commencer. Puis après ça, il faut continuer. Après ça, il faut persévérer. Et quand on manque notre coup, quand on se trompe, il faut aller devant le trône de miséricorde pour demander pardon, puis demander d'être secouru. Puis reprendre, puis continuer. Et là, Dieu nous aide. Dieu nous aide. Puis à travers toutes ces expériences-là, on monte d'échelon pour se rapprocher de Dieu, puis avoir davantage de foi, avoir davantage de confiance, avoir davantage la paix intérieure du Christ. On est né pour aller vers la perfection. Mais vous et moi, on est incapables d'y aller. Absolument incapables. Mais vous en connaissez un qui est capable de vous amener là. C'est le même qui a donné à David d'être capable de tuer le lion puis l'ours. Exactement. La même chose. C'est possible avec le Saint-Esprit, avec la confiance en Dieu, de chasser les sentiments de vanité, de penser qu'on est capable de nous-mêmes d'être de quelque chose, et de penser que nous sommes quelqu'un d'important, et de penser que nous avons la solution au problème, et les nôtres, et ceux des autres. Et si vous remarquez, c'est tellement facile d'avoir la solution au problème des autres. Plus difficile d'avoir la solution à nos problèmes, à nous. C'est toujours comme ça. C'est plus facile de travailler sur le voisin que de travailler sur nous-mêmes. Mais Dieu nous montre quelque chose. C'est qu'il dit, quand je vous appelle, là, laissez les autres tranquilles. Servez-les, aidez-les, encouragez-les, mais laissez-les tranquilles. Mais vous, ne vous laissez pas tranquilles vous-même. Je vous appelle pour que vous changiez, pour que vous vous examiniez, que vous m'en parliez, puis que je vous aide, vous. Parce que la démarche avec Dieu, des appelés, elle est individuelle. Et notre chemin, il est individuel. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir entrer dans le royaume en vous tenant par votre manteau. Chacun a son chemin et chacun va devoir démontrer à Dieu qu'il veut absolument lui appartenir. Et vous savez, tant qu'on pense, tant et aussi longtemps qu'on pense qu'on a raison, on est dû pour avoir des problèmes. Et parfois, Dieu nous en permet. Et parfois, il en met sur notre chemin pour qu'on finisse par comprendre. Tant et aussi longtemps qu'on pense qu'on est capable seul puis qu'on sait comment arranger les choses, on continue à créer des problèmes pour les autres et pour soi-même, puis à se compliquer la vie, alors que c'est si simple autrement. De lâcher prise par rapport à ça, de faire le travail intérieur sur nous-mêmes. Psaume 26, psaume chapitre 26. Psaume chapitre 26. Un psaume de David, le petit roi berger. Rends-moi justice, verset 1, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Vous non plus, moi non plus. Mais nous devons marcher dans l'intégrité. On n'est pas parfait, mais il faut s'en aller par là. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle point. Ici, vous le voyez peut-être pas au premier abord, mais dans la dernière partie du verset, dans la phrase qu'il y a là, c'est une promesse qu'il y a. « Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle point. » Écrivez-les autrement, vous allez voir la promesse. « Si je me confie à l'Éternel, je ne chancelle point. » Ou « Lorsque je me confie à l'Éternel, je ne chancelle point. » Si je marche dans l'intégrité, que je me confie à Dieu, ce qui arrive, c'est que la vanité s'en va. La vanité s'en va. L'importance que je voyais à moi-même, ça s'en va. La suffisance ou le fait de penser avoir raison sur tout, ça s'en va. Et je commence à être ouvert à me faire dire par Dieu quoi faire, comment faire. Et même par son gouvernement dans l'Église. Autrement, j'ai de la misère à l'accepter. Et j'ai encore un problème. Verset 2. Sonde-moi, Éternel. Là, ici, c'est quelque chose que vous pourriez demander à Dieu et que je pourrais demander à Dieu. David l'a demandé. Ça a pris du courage. David n'a pas eu peur de demander ça à Dieu. C'est quelque chose, là. Il faut y penser. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, mets-moi au test, mets-moi à l'épreuve. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Donc, dans le plat de difficulté, pour que ça me solidifie, que je vois ce que j'ai à changer, c'est toute qu'une demande, là. Il faut y penser comme il faut avant d'y demander. C'est bon parce qu'il va vous répondre. Il va vous répondre parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. On peut lui demander d'y aller graduellement. Selon sa bonté, sa tendresse paternelle. Parce qu'il nous aime. Il sait qu'il nous enverra jamais quelque chose de trop pesant pour nous. Mais il va nous envoyer ce qu'on a besoin, par exemple. Comme on fait avec nos enfants. Il va nous donner ce qu'on a besoin pour qu'on avance. Parce qu'il nous aime. Il veut qu'on se rende au but, là. Il ne nous a pas appelés pour nous laisser tomber en cours de route. Il veut qu'on arrive au but. Verset 3, « Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Verset 4, et regardez maintenant ce que David fait pour marcher dans l'intégrité. Il donne un exemple ici. Ça ne couvre pas tout, mais ça donne un exemple. C'est quoi marcher dans l'intégrité? « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. » Donc, je ne fais pas mes amis de gens menteurs ou de gens turbulents ou de gens violents. Et je ne m'assois pas devant des gens qui en tuent d'autres à la télévision ou qui commettent des adultères ou qui mentent sur toutes sortes de formes. Je n'ai pas d'affaire à m'asseoir là parce que si je m'assois même devant ma télévision, que je regarde ça, je m'assois en compagnie des menteurs, des tueurs, des voleurs. Et je laisse entrer ça dans mon esprit. Et c'est ça qui prend la place de mes pensées plutôt que de remplir mon esprit avec les pensées de Dieu. Regardez ce que David dit, « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés qui font des petits clins d'œil pour dire « On va s'arranger, on va se faire une petite combine de quelque chose puis ça va marcher. » Non, je ne me tiens pas avec ces gens-là. « Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. » Je ne vais pas aller dans des endroits où on fait le mal en groupe. Dans ces salles publiques où qui se passent toutes sortes de choses maintenant. On voit ça annoncé sur le bord de la route et tout ça. « Je hais les assemblées de ceux qui font le mal et je ne m'assieds pas avec les méchants. » Pas plus devant l'ordinateur sur des sites où je n'ai pas d'affaires à aller. Parce que si je fais ça, je m'assois avec les méchants. Je m'assois avec les trompeurs, avec les adultères, avec les voleurs, avec les perverses. Et je participe au mal qu'ils font. C'est ça que David est en train de nous expliquer ici. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, qu'on voit. Parce que nous, on est appelés à faire partie d'un autre monde, d'une autre culture, d'une autre façon de penser, d'une autre façon de faire. Une façon de faire qui amène la paix, le bonheur, la joie. Qui honore le grand Dieu qui a donné ces lois-là, qui sont justes et bonnes, pour le bonheur de l'humanité. Verset 6, « Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, mon Dieu. » J'ai hâte à l'Assemblée de Dieu. Je vais avec les enfants de Dieu. je pense à toi. Et je vais autour de l'autel de l'Éternel. C'est ce qui me préoccupe, c'est ce que j'aime. Alors, David dit, il faut continuer à se repentir. Et c'est ce qu'on doit faire tout au long de l'année, particulièrement quand les fêtes du printemps approchent, de s'examiner dans ce sens-là. Mais tout au long de l'année, on doit le faire. Demander à Dieu de nous montrer nos fautes, puis de nous donner la force de changer. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21, s'il vous plaît. Matthieu 21. Et on va commencer au verset 28. C'est une parabole que le Christ donne ici. 28 et 29. Que vous ensemble. Un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » OK? Il l'appelle à aller faire un travail. Le fils répond, « Je ne veux pas. » OK? Donc, il n'était pas d'accord. Et après ça, il s'est repenti. Se repentir, ça veut dire changer d'idée, changer de façon de voir, de faire. Puis il est allé finalement faire le travail. Verset 30. Donc, il avait un mauvais départ, mettons ça de même. Le fils avait un mauvais départ, il a dit non à son père. Mais il s'est repenti par la suite, il a changé. Verset 30. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et le deuxième répondit, « Je veux bien, Seigneur, mais il n'est pas allé. Il n'est pas allé faire le travail. » Qu'est-ce qu'il a fait, si vous analysez la situation? C'est dans le fond. Il s'est laissé guider par quoi? Par l'amour de son père? Sûrement pas. Par le désir d'obéir à son père? Sûrement pas. Par la vanité humaine. Parler de vanité, c'est ça le thème du sermon. Parce que lui a jugé que c'était pas nécessaire d'y aller. Je n'ai pas besoin d'obéir aux directives de mon père, ni aux directives du gouvernement de Dieu, ni aux directives du ministère. Je n'ai pas besoin d'obéir à ça. Je peux juger de moi-même. Je suis assez grand, je suis assez vieux pour juger de ça. J'ai assez d'expérience. Il a rationalisé. Verset 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Si nous ne nous repentons pas, c'est ce qui va arriver. Le Christ disait ça à ses disciples. Là. Il dit, les autres vont vous devancer. Pourquoi? Parce que ceux de Sodome, ces prostituées-là, vont se repentir lorsqu'ils vont connaître le vrai Dieu quand ils vont être appelés. Ça ne leur a pas été donné dans le passé. Mais quand ils vont être amenés à la vie, ils disent, eux autres vont se repentir. Si vous autres, vous connaissez la vérité, vous ne vous efforcez pas de changer, de vraiment appartenir à Dieu, oubliez ça. La partie est finie. Mais elle n'est pas finie parce qu'on est encore là. Tant qu'on est encore vivant et qu'on peut se tourner vers Dieu, demander son aide, puis faire ce qu'il y a à faire, Dieu va nous aider. Dieu ne se lasse pas de pardonner, de nous encourager. Mais il faut cesser de faire les choses qui nourrissent la vanité humaine. Il faut cesser, par exemple, de juger ou de critiquer, comme je disais tantôt, de condamner les autres, de se montrer meilleur qu'eux. Il faut s'examiner, nous, et non pas les autres. C'est la question de la poutre et de la paille. Hein? Vous pourrez aller voir dans Matthieu 7, quand le Christ donne cette analogie-là, il dit, vous voyez une paille dans l'œil de votre voisin, une toute petite poussière, disons, et puis vous l'accusez, lui, vous mettez l'accent là-dessus, alors que vous avez une faute qui est grosse comme une poutre de grange, et vous ne la voyez pas. Pourquoi vous ne la voyez pas? Parce que vos yeux sont sur les autres pour les condamner, les critiquer de ce qu'ils font de pas correct. Et ça vous donne l'impression que vous êtes correct, alors que vous ne changez pas ce que vous avez à changer. Voyez-vous la différence? Et là, le Christ finit par dire, si vous faites ça, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. C'est de l'éphémère. C'est quelque chose qui conduit, si on ne change pas, vers la mort éternelle, où il n'y a pas de durabilité de vie, parce qu'il n'y a pas de vie éternelle. Vous savez, quand vous regardez, par exemple, simplement l'histoire d'Adam et Ève, on ne s'y reportera pas dans le livre, mais quand vous regardez simplement l'histoire d'Adam et Ève, sous la perspective de la vanité, la décision qu'ils ont prise, ça a été une décision basée sur leur vanité, si vous l'examinez comme il faut. C'était une décision de se détourner de Dieu, mais c'était basé sur la vanité, sous l'influence de Satan. Pourquoi? Je vous l'explique. Parce qu'ils ont prétendu quelque chose. Ils se sont fait croire quelque chose. Ils se sont amenés au cinéma en se prétendant avoir l'autorité de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Est-ce que ce n'est pas ça qu'ils ont fait? Ils se sont arrogés l'autorité de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est être vaniteux. Être vaniteux, c'est être vain. C'est-à-dire se penser quelqu'un d'autre qu'on est. Ils n'étaient pas les législateurs spirituels. Ils étaient les créatures que Dieu avait faites en leur disant, « Voici mes lois. Suivez-les, vous allez être heureux. » Mais si vous faites le mauvais choix, il y a une conséquence. Malheureuse, durable, et il y a beaucoup de souffrance. Et c'est ce que l'humanité a connu depuis ce temps-là. Ils se sont prétendus être ce qu'ils n'étaient pas. Aussi simple que ça. La vanité est entrée dans eux et leur contact avec Dieu a été brisé, a été diminué. Et là, ils ont commencé même à avoir peur et ils ont commencé à se justifier. Vous connaissez l'histoire, hein? Quand Adam a dit « c'est pas moi, c'est la femme », puis quand la femme a dit « c'est pas moi, c'est le serpent », tout le monde s'est justifié. Mais là, j'arrête. C'est quoi se justifier? Se justifier, c'est de dire « moi, je suis juste, mais c'est un autre qui est coupable ». C'est à faute de l'autre, hein? Adam dit « c'est à faute de ma femme », puis la femme dit « c'est à faute du serpent ». Se justifier, c'est de dire « moi, je suis correct là-dedans, c'est l'autre qui m'a amené à faire telle chose ou à manquer mon coup ». C'est se montrer juste, c'est prétendre qu'on est juste alors qu'on ne l'est pas. On veut abrier notre faute en disant « moi, je suis correct là-dedans, moi, je n'ai rien fait de mal, c'est l'autre qui a fait ». Et souvent, quand il y a des problèmes de couple, les premières choses qu'on a à démêler entre l'homme et la femme, c'est d'arrêter de s'accuser mutuellement de toutes les fautes du monde. Pour commencer à ce que chacun se regarde lui-même. Qu'est-ce que j'aurais, moi, à changer pour que ma relation dans mon couple aille mieux? Et là, on commence à bâtir là-dessus. Autrement, chacun essaie de se justifier. Et là, c'est une bataille rangée. Pour avoir raison, pour dire « moi, je suis pas en tort, c'est l'autre qui est en tort », et là, on a toute la liste de raisons, c'est deux bords. Mais ça ne va pas nulle part. Et ça fait simplement envenimer la situation. Alors, Adam et Ève ont répondu avec leur vanité, en se prétendant au-dessus des lois de Dieu et en se prétendant être capable d'être législateurs. Ils en ont payé le prix amèrement. Mais ça, c'est nous autres. Pensez-y un peu, là. Je vous donne beaucoup de matière à réflexion aujourd'hui. C'est nous autres, ça. On pense ainsi, on parle ainsi, souvent, sans s'en rendre compte. On se défend, on a tendance à accuser, à critiquer, on a tendance à blâmer, même à mentir, sous des formes parfois détournées, mais à mentir pour se tirer d'affaire. Ça encore, c'est pour paraître juste, pour montrer qu'on n'a pas tort. Tout ça se tient, ça va ensemble. Vous vous rappelez, dans... Marc 14, vous pourrez aller voir. Non, je pense que ça vaut à peine qu'on aille voir. Marc 14, verset 3. Marc 14, verset 3. Il y a une scène ici qui nous donne beaucoup d'informations sur le thème dont on parle. Marc 14, on va commencer à lire au verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Est-ce que c'était une mauvaise action ou une bonne action? C'était une bonne action. Elle a fait le bien, cette femme-là. On ne donne pas de détails sur cette personne-là, mais le geste qu'elle a posé, elle avait compris quelque chose par rapport au Christ et elle voulait honorer Dieu et elle l'a fait avec tout son cœur. Elle a peut-être mis tout ce qu'elle avait d'économie dedans, dans ce parfum cher-là. Regardez verset 4, la réaction des gens. « Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. » C'est fort, là. « Leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? » J'arrête. On explique. Ils sont indignés d'une bonne action qui a été faite par une femme qui a peut-être mis tout son argent, qui a mis tout son cœur, en tout cas, dans ce geste-là pour honorer le Christ, Dieu lui-même. Eux sont indignés à cause de leur vanité, à cause de leur nature humaine et à cause de leur jalousie. Quand on est indigné dans une situation comme ça par rapport à une bonne œuvre qui a été faite, c'est qu'on se rend compte que la personne a fait beaucoup et qu'on n'est peut-être pas capable de faire la même chose, ou qu'on aurait dû faire la même chose, mais qu'on ne l'a pas fait. On se sent coupable. Et là, pour se déculpabiliser, on accuse l'autre. Elle n'aurait jamais dû faire ça. Quand on va au fond des motifs de l'être humain, on découvre toutes sortes de choses. Mais il faut les voir, ces choses-là. Parce que c'est nous, ça. Ça, je vous disais, c'est nous, Adam et Ève. Et c'est nous, les gens, parfois, indignés. Il faut être capable de faire le ménage là-dedans. Nous, notre rôle, c'est de changer nous-mêmes, de plaire à Dieu, de vivre selon ses voies et ses lois. Quand on voit une bonne action, de l'admirer, de l'apprécier, d'en remercier Dieu. Pas de chercher à trouver les motifs de la personne ou quoi que ce soit, ou la situation. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont été indignés? Je vais vous dire encore plus. Ça vaut la peine que je prenne le temps de vous donner cette nuance-là. Elle est vraiment importante. C'est parce que le geste de la personne les a accusés à cause de l'humilité de cette femme. Ces gens-là qui étaient indignés n'avaient pas l'humilité qu'elle avait de venir honorer Dieu de cette façon-là. Et même si dans d'autres passages, on voit qu'à certains endroits où le Christ est entré dans des maisons, l'autre de la maison lui avait même pas offert de laver ses pieds comme c'était la coutume à l'époque à cause de la poussière et tout ça. Le Christ lui avait reproché d'ailleurs. Mais là, ici, ces gens-là étaient indignés d'une bonne action, de ce que la femme avait faite, parce que ça devenait comme une accusation contre eux qui n'avaient pas eu l'humilité de faire la même chose ou la bonté de faire la même chose envers le Dieu de l'univers qui était là. Et regardez le verset 5. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On aurait pu vendre plus de 300 deniers ce parfum et donner ces deniers aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mensonge! Pourquoi? Parce que s'ils voulaient donner des deniers aux pauvres, il n'y a pas personne qui les empêchait de le faire. Et quand on donne des deniers aux pauvres ou à celui qui en a besoin, on ne s'en vante pas sur les toits. On donne. Dieu dit que votre main gauche ignore ce que la main droite donne. On fait le bien pour le bien qu'il y a à faire, point. Et c'est entre nous et Dieu. Alors, si eux se sentaient accusés par le fait qu'elle ait donné quelque chose d'aussi valable, c'est parce que eux ne donnaient rien de valable autour à ceux qui avaient besoin. Vous savez, nos actions puis nos attitudes parlent plus fort que ce qu'on dit. Moi, quand je vois quelqu'un, puis à travers les années, j'ai appris ça, quand je vois quelqu'un qui me dit craindre qu'il y a des voleurs partout autour de lui, je ne lui laisserai pas les clés de ma maison. Parce que souvent, on fait de la projection comme ça. Quelqu'un qui voit des voleurs partout, je n'y ferai pas une grande confiance au point de départ. C'est la même chose pour chaque principe. Vous savez, quand je dis que nos actions et nos attitudes parlent plus fort que ce qu'on dit. Verset 6. « Mais Jésus leur dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Et vous savez, parfois, sans s'en rendre compte, et ça, il faut faire attention à ça, parfois, on a tendance à critiquer même les bonnes actions des autres. Pour certains des motifs que je vous dis, puis d'autres que je pourrais élaborer. Des fois, on a tendance à critiquer même les bonnes actions des autres. On voit des fautes dans les décisions qui ont été prises par d'autres, ou par l'Église, ou par le ministère, ou quoi que ce soit. On voit des fautes parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont circulé. Et là, on dit, ah, ça, c'est pas correct. Ça, c'est... Puis on ne sait pas toute l'histoire, mais on donne la conclusion. Ce n'est pas la chose à faire. On prête de mauvaises intentions, et ça s'appelle condamner. Et condamner, c'est critiquer, c'est la vanité humaine. C'est de se placer dans la chair de celui qui est juge. Et Dieu dit, je suis le juge. Dieu seul est juge. Je vais vous donner un petit exemple. En préparant le sermon, ça m'a frappé en mettant ça en comparaison. Mère Teresa, vous savez qu'elle a fait, cette religieuse-là a fait énormément de bien. Pendant toute sa vie, elle a consacré sa vie aux misérables. Et quelqu'un peut dire, oui, Mère Teresa a fait beaucoup de bien. Et un chrétien peut dire ça. Mais elle n'était pas convertie. Là, vous venez d'avoir une belle déclaration. Vous venez de voir un petit peu le cœur de la personne. Mère Teresa a fait beaucoup de bien, mais elle n'était pas convertie. OK? Ça, c'est négatif. Ça, c'est donc, moi, je suis converti, moi, je comprends mieux qu'elle, je suis plus qu'elle. Attention. 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 Ça, c'est le cœur humain qui est tortueux par-dessus tout, qui essaie de se justifier, de se donner raison, de se monter. Moi, je peux être le juge de cette dame-là. C'est sûr qu'elle n'était pas appelée. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas la phrase autrement? Et là, ce serait tout le contraire. Oui, Mère Teresa a fait énormément de bien. Elle a consacré sa vie aux miséreux. Imaginez-vous, quand cette femme-là va être appelée, qu'est-ce qu'elle va faire dans le royaume? Avec tout l'entraînement que Dieu a permis qu'elle ait. Voyez-vous la façon de voir? Ça, c'est positif. Et ça, c'est selon Dieu. Et ça, c'est d'éliminer la vanité humaine de notre cœur. Et en tant que chrétien, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il y a beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup là-dedans. Matthieu 16. Matthieu 16. Ça, c'est un exemple frappant aussi ici. C'est Pierre, pas longtemps avant que le Christ soit crucifié. Le Christ a annoncé qu'il allait mourir. Et Pierre, l'impétueux, lui répond avec force, avec puissance. Il reprend le Christ. Entre parenthèses, il critique le Christ. Reprendre veut dire critiquer ici, là. Matthieu 16, verset 21. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. À reprendre le gouvernement de Dieu. À reprendre le Christ lui-même, le chef de ce gouvernement-là. Et il lui dit à Dieu, « Ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. » Un être vain, un être insignifiant et un être prétentieux à ce moment-là, qui prétendait pouvoir sauver le Christ qui venait sauver le monde, lui. OK? Pierre n'avait pas compris, bien sûr, il a fallu qu'il se repente de ça. Mais quand on voit le fond du scénario, c'est ça. Moi, je suis plus que toi, même si tu viens de dire tout ça, là, moi, je vais arranger les choses à ma façon. Ça semble gentil au point de départ, mais ça ne l'est pas, parce que ce n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, Pierre dit au Christ, « Je sais mieux que toi. Je sais mieux que toi. Ce que tu viens de dire, ça n'arrivera pas. Je sais mieux que ça, je vais m'en occuper. » Verset 23, regardez ce que Jésus lui répond. « Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Les pensées de vanité, les pensées du néant, les pensées de la prétention, de prétendre, de penser être celui que nous ne sommes pas, de penser avoir les pouvoirs que nous n'avons pas, de prendre une place qui n'est pas la nôtre. C'est ça. Des idées de Satan étaient entrées dans l'esprit de Pierre. Et je profite de l'occasion juste pour faire une petite parenthèse. Je ferai peut-être un message là-dessus à un moment donné. Ce n'est pas toutes les idées qui nous viennent qui sont bonnes. Ça, on l'apprend par expérience. Ce n'est pas toutes les idées qui nous viennent qui sont bonnes. On est porté au point de départ à la pensée qui sont bonnes parce qu'ils viennent de nous autres. Hein? Parce que nous y avons pensé à cette chose-là, ça doit être la bonne chose à faire. Mais attention, prenons le temps de sous-peser les choses. Parce que ça peut, oui, venir de nous autres, mais que ça ne soit pas vraiment selon Dieu. Mais ça peut venir selon la nature humaine charnelle qui vise d'autres choses, qui a d'autres motifs aussi. On peut s'indigner de quelque chose pour lequel on n'a pas à s'indigner. Ou ça peut venir carrément de quelqu'un qui diffuse, qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, qui est capable de mettre dans notre idée des idées ou de nous donner des émotions pour nous amener sur un chemin de détournement. Alors, ce n'est pas toutes les idées qui nous viennent qui sont bonnes. Et regardez le verset 24, c'est une recommandation pour eux et pour nous. « Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et renoncer à lui-même, ça veut dire cesser de pratiquer le péché, c'est vrai. Cesser de chercher son propre intérêt, c'est vrai. Mais ça veut dire cesser d'être vain. Cesser d'être prétentieux. Cesser d'être hypocrite. Cesser de penser être quelque chose d'important alors que nous ne sommes rien. Et à partir de rien, Dieu peut faire quelque chose. Mais à partir d'un rien qui se pense quelque chose, Dieu ne fait rien. Vous y penserez. Je joue un peu sur les mots, mais c'est ça. Dieu ne travaille pas avec nous tant que nous ne sommes pas totalement disposés à nous soumettre à lui. Et parfois, certains ont vécu des choses difficiles pendant des années, même après que Dieu les a appelés, parce que justement, ils n'arrivaient pas à se soumettre à Dieu vraiment. Ils ont gardé quelque chose de leur ancienne vie qu'ils ne voulaient pas changer, où il y avait encore raison sur un certain nombre de choses. Ils ne voulaient pas admettre les directives ou les conseils qui leur étaient donnés. Ils ont fait les choses à leur façon. Et parfois, ça a duré des années et des années de souffrance avant de comprendre. Et Dieu n'est pas pressé. Il va mettre le temps qu'il faut. Mais on a tout à gagner à dire à Dieu, montre-moi là, tout ce que j'ai à changer, puis aide-moi à le faire. Aide-moi à voir ce que je vois. Aide-moi à voir ce que je ne vois pas que je dois changer. Bien sûr, pour vaincre la vanité, il faut aller plus loin aussi. Il faut pardonner. Et ça, c'est le pardon qu'on donne par rapport aux fautes qui ont été faites, par rapport à nous autres, ça élimine la vanité aussi. Parce que si on n'est pas capable de pardonner, c'est qu'on est encore attaché après notre vanité humaine. C'est qu'on on veut continuer d'avoir raison, d'avoir rancune envers celui ou celle qui nous a fait du mal, ou qui nous a fait du tort. Le fin fond de l'histoire, c'est ça. Quand on n'est pas capable et qu'on ne veut pas pardonner, c'est qu'on ne veut pas reconnaître qu'on laisse aller l'autre, qu'on lui pardonne complètement, mais qu'on veut continuer à dire « J'ai raison d'avoir tellement souffert et je ne suis pas capable de pardonner à cette personne-là. Et je, dans le fond, je ne veux pas pardonner à cette personne-là qui m'a fait tellement de mal. Tellement de mal. » C'est une justification. Ça maintient en vie le fait qu'elle m'a tellement fait mal. Regarde, ça paraît encore. Je ne suis pas capable de pardonner. Il faut affronter ça sous cet aspect-là aussi, en demandant l'aide de Dieu pour être capable de le faire. Sans ça, on est victime une deuxième fois du mal qui nous a été fait, en étant incapable de pardonner ou en ne pardonnant pas. Pardonner, on n'est pas capable, mais Dieu est capable. Ce qu'on n'est pas capable de faire, Dieu nous rend capable de le faire. On est capable de tout grâce à lui. D'ailleurs, c'est pour ça que le Christ nous l'a dit bien clairement. Il n'a pas mis de condition. Dans Matthieu 6, verset 12, il a dit « Demandez à Dieu de vous pardonner vos offenses comme vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés. » Dans la prière modèle qu'il nous a donnée. Alors, il n'a pas dit « Si vous êtes capable. » Non, il a dit « Pardonnez. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Seul, on ne peut pas, mais avec sa force, on peut. Et plus que ça, le Christ nous a dit plus loin « Priez pour eux autres. » Demandez que Dieu donne ses bénédictions aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait du tort. Et vous savez une chose qui va se passer à ce moment-là? Si vous et moi, nous sommes capables de demander à Dieu d'accorder les meilleures bénédictions que lui sait pour la personne ou les personnes qui nous ont fait du mal, non seulement on se libère parce qu'on pardonne, mais on entre, je dirais, dans l'attitude même du Christ, et on devient davantage chrétien, et on se libère totalement de ces douleurs qui nous ont été faites. Parce qu'on va plus loin que juste dire « je pardonne ». On demande du bien pour celui qui nous a fait du tort. C'est ce que le Christ a fait pour vous et pour moi. Il n'y avait rien à attendre de nous autres quand il a donné sa vie pour vous et pour moi individuellement sur la croix. Il n'y avait rien, absolument rien à attendre de nous. Et même il l'a fait alors que nous étions encore ennemis, comme c'est marqué dans la Bible. Et il l'a fait pas seulement ensuite pour qu'on soit pardonné, mais pour être capable de nous bénir, de nous donner de comprendre son plan merveilleux, d'en faire partie, d'avoir espoir pour être dans sa famille un jour et d'aider les autres êtres humains. C'est ça qu'il nous a donné. Il n'a pas juste pardonné, il a donné par-dessus aussi. Il est allé beaucoup plus loin que ça. Quand vous regardez, on n'ira pas à cause du temps, mais quand vous regardez le martyr d'Étienne, Étienne, quand il a été mis à mort, il a dit à Dieu en prière, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comme le Christ a fait. Acte 7, verset 60, c'est ce qu'il leur a dit. Une autre façon maintenant d'éliminer la vanité, c'est de ne pas se plaindre, d'arrêter de se plaindre, de ne pas voir les injustices chez les autres, c'est-à-dire de ne pas mettre l'accent sur les injustices que les autres commettent. On les voit, les injustices. On le sait, on en voit les injustices. On en voit dans les bulletins de nouvelles, on en voit sur les journaux, on en voit même entre nous. Sans qu'on le veuille, parfois on commet des injustices envers d'autres. Mais Dieu dit, ne mettez pas vos yeux là-dessus, voyez les bons points des gens. Et vous, travaillez à changer vous-même. Et attention, ne soyez pas jaloux de ceux qui réussissent. Ne soyez pas jaloux de ceux qui réussissent. Quelle que soit votre situation, quel que soit votre état, ne soyez pas jaloux de ceux qui réussissent, qui prospèrent même. Les méchants prospèrent, c'est marqué, hein? Au temps de la fin, vous irez voir dans le livre de Malachie, les méchants prospèrent. Et certaines personnes, même dans l'Église, sont parfois portées à dire, comment ça se fait? Les grands bandits, les criminels vivent dans l'abondance, dans une opulence extraordinaire, ils échappent à la justice, ils font ce qu'ils veulent. Oui, parce que c'est le monde de Satan. Mais quand l'histoire sera rendue au bout, quand l'histoire humaine, dans sa phase annuelle actuelle, va être rendue au bout, les choses vont changer. Et ceux qui ont été fidèles à Dieu dans des circonstances hostiles pour faire sa volonté vont recevoir les récompenses. Et vous pensez que les milliards des dictateurs sont quelque chose? Que ça vaut quelque chose? Vous allez hériter l'univers. C'est un peu plus que des milliards. Puis à ce moment-là, ça ne nous fera rien non plus. Quand on possède plein de choses, on n'en est pas tributaire d'une façon et ça ne nous montre pas à la tête non plus. Ça va être pour mieux servir les autres et pour mieux accomplir l'œuvre, tout simplement. Tout simplement. C'est formidable. Alors, ne pas être jaloux des autres. Gardez les yeux sur le Christ et sur les choses qu'on a à changer. Être humble. Être humble. Je vais vous dire une chose, notez-la, puis rappelez-vous-en. L'humilité, c'est une puissance. L'humilité, c'est une puissance. C'est de reconnaître Dieu comme notre pourvoyeur en toutes choses. C'est de reconnaître que moi, je ne peux rien faire de bon, de valable, de juste, de vrai, mais par mon Dieu, je suis capable de combattre mes adversaires, je suis capable de passer à travers toutes les circonstances que lui va permettre, et je vais être capable de me rendre au bout de ma route qu'il m'a tracée, parce que c'est lui qui va m'y amener. Le Christ a dit, je vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais, si vous ne m'abandonnez pas, si vous ne me délaissez pas. Être humble, c'est la base du vrai christianisme. C'est pas une faiblesse, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que la force va commencer à vous être donnée. Et la force, elle est commencée à nous être donnée lorsqu'on s'humilie devant Dieu, qu'on dit « je ne suis pas capable ». Comme un enfant hein, qui va voir son père, fait longtemps qu'il essaye de réparer sa bicyclette, il n'y a rien qui y fait, ça ne marche pas, il a tout essayé. Puis à un moment donné, il s'en va avec les morceaux, puis il va voir son père et dit « papa, le père comprend, je sais que tu n'es pas capable, moi je vais t'aider, je vais te le montrer ». Et là, tiens, tout change. Pourquoi? Il a fini par savoir qu'il faut qu'il demande. Combien de fois on a maintenu des problèmes parce qu'on n'en a pas parlé à notre père? Parce qu'on n'est pas allé vers lui, même dans les petites choses. On oublie ça parce qu'on dit, oh, c'est des détails. Non, non, non. Si on demande, même dans les petites choses de chaque jour, alors qu'on s'en va en voiture ou qu'on va à notre travail ou quoi que ce soit, qu'on lui parle, c'est qu'on est en contact avec lui, c'est qu'on marche avec lui. Et plus on vit cette expérience-là, plus il nous répond et plus notre foi se développe. Plus on prend confiance en lui, plus on est proche, plus on est sous son aile. Et quand les temps plus difficiles vont venir, on sera capable de dire, je l'ai vu, il m'a donné la force de tuer l'ours, de tuer le lion. Il va faire le restant du chemin pour moi, même si autour de moi, je ne vois pas la solution. Lui, il l'a. Lui, il sait. Demandez à Dieu. Proverbe 26. Proverbe 26, s'il vous plaît. Verset 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Waouh! Ça, c'est un bon coup, là. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Il est moins fiable que le pire des insensés. Pourtant, C'est de là que je pars, c'est de là que vous partez. Parce qu'on... C'est tous pensée sage. C'est la vanité humaine. Et c'est de ça qu'il faut se débarrasser pour dire à Dieu, la seule vraie sagesse, c'est de toi qu'elle vient. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Hein? Mettre en application ses lois, ses voies, comme on voit dans, je pense, c'est psaume 111, verset 10, c'est le commencement de la sagesse, c'est de mettre en pratique les lois de Dieu. Ça, c'est la vraie sagesse qui nous approche de Dieu. Mais la sagesse humaine, elle nous amène n'importe où ailleurs que sur les chemins de Dieu. Proverbe 21, verset 2. Proverbe 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. C'est ça que je vous disais tantôt. Proverbe 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Quand on ne connaît pas Dieu, tout ce qu'on pense, c'est correct. On l'a. On a raison. Et même quand on connaît Dieu, il faut se battre pour éliminer cette notion-là des choses. J'ai raison, ma façon de voir, elle est correcte. Il dit, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. On pense bien agir, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Lui, il sait si telle action est juste ou si telle pensée, elle est juste. Et c'est à moi de lui demander de m'aider à aligner mes pensées sur les siennes et mes actions sur celles du Christ. Sinon, c'est encore une vanité. Parce que, voyez-vous, la vanité, c'est le monde vide du paraître. C'est un monde vide, le monde du paraître. Des paroles de mode. C'est le monde vide du paraître. C'est le monde vide de l'apparence. Il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de valeur réelle. Il n'y a pas de fondement réel, durable. Et la connaissance des voies de Dieu, c'est le fondement de la sagesse et le fondement de la vie éternelle. Ça, c'est durable, parce que c'est le début de l'éternité. C'est le commencement du chemin qui va nous mener dans la vie éternelle. Verset 30, ça vaut à peine même chapitre, verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Et dans l'original, c'est contre l'Éternel. Autrement dit, devant Dieu, il n'y a aucun homme qui peut prétendre être sage, être intelligent, puis être capable de lui donner conseil. C'est Dieu qui est le plus sage, qui est le plus intelligent. Il n'y a pas besoin de notre conseil pour savoir quoi faire. OK? Dieu possède toute la sagesse. Notre sagesse à nous et notre intelligence à nous au point de départ, même si les êtres humains sont capables de bâtir des fusées pour aller dans l'espace, c'est rien. C'est encore de jouer dans un petit carré de sable. Quand Dieu regarde ça, c'est moins que des enfants qui jouent dans un carré de sable, qui font des petits chemins avec un bout de bois en pensant que c'est un camion. Pour nous, on trouve que c'est merveilleux d'aller dans l'espace. On pense qu'on est allé dans l'espace. On est allé juste pas loin de la Terre et on se prétend les maîtres de l'univers. On n'est rien. On est vanité, comme Salomon disait. La vanité, c'est le monde de l'apparence. C'est le monde qui n'a pas de fondement durable. Et notre sagesse, notre intelligence, elle n'est rien par rapport à celle de Dieu. Regardez Jérémie 9. Jérémie chapitre 9. Jérémie, chapitre 9. Versets 23 et 24. Voici la directive qui nous est donnée ici. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse à lui. Que le fort ne se glorifie pas de sa force à lui. Que le riche ne se glorifie pas de ses richesses à lui. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, dit l'Éternel. C'est de là que vient la vraie sagesse, la vraie force, la vraie intelligence. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Et c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et l'Éternel prend plaisir à nous donner cette sagesse-là, à nous donner sa vision des choses et tout l'encouragement dont nous avons besoin. Le Christ ne nous abandonnera pas. Le Christ nous mène vers une solide réalité qu'on appelle la vie éternelle, dans son exemple d'humilité. Et nous, on doit le suivre, cet exemple-là. C'est lui, le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui donne la foi, qui l'amène à la perfection. Dans ceux qui quittent la vanité, qui cessent de penser être quelque chose, pour demander à Dieu de devenir ses enfants, selon son cœur. Hébreux chapitre 2, un dernier verset, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Vous savez, Dieu nous appelle à devenir une nouvelle créature, une nouvelle création glorieuse. On est appelé à la gloire après avoir quitté la vanité, l'orgueil, le vide, l'impression d'importance et ainsi de suite. Hébreux 2, verset 9 et verset 10. Mais celui qui a été abaissé pour un temps au-dessous des anges, Jésus, notre exemple, notre chef, celui qui nous donne la foi et l'amène à la perfection, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. C'est ce qu'il est maintenant, à la droite de son Père, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire plusieurs fils ait été élevé à la perfection par les souffrances. Alors, le but de toute l'opération de Dieu, ça dépasse l'imagination. C'est partir de la poussière à aller vers des êtres éternels, partir d'un univers fini, limité, impuissant, faible, pour avoir la gloire et la puissance dans l'éternité avec lui. C'est ça le plan de Dieu et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est pour ça que le fait de vaincre par la force de Dieu notre vanité sous tous ses aspects, c'est si important.